chers amis, bonjour. Je vous remercie d'être venus toujours aussi nombreux. Malgré le carnaval qui se déroule dans les rues, tous les gens sont déjà masqués. Les danses et les musiques vont bientôt commencer, je pense. Alors, nous avons vu à la leçon précédente une scène remarquable où Saikaku s'en donne à cœur joie dans l'élaboration d'un décor tout entier littéraire où le déroulement des faits ne peut s'entendre et s'apprécier qu'à condition de les percevoir pleinement comme une redisposition, non seulement une transposition mitatée des héroïnes des anciens temps, mais aussi une sorte de personnification des lieux littéraires, avec la Yoshino, n'est-ce pas, le nom de la courtisane, qui est aussi le nom des collines de près de Nara, qui sont célèbres par leurs cerisiers en fleurs. Et en plus, comme aurait dit Pierre Dac, c'était en couleur, car c'est en effet la couleur du grémil, le murasaki, le pourpre, violet, mauve, comme vous voulez, qui teinte tout le passage dont la protagoniste s'appelle justement Petit Grémil, Komurasaki, faisant du même coup référence à la romancière, l'auteur du Genji, Murasaki Shikibu, à son roman qu'on appelle très souvent, vous rappelez, Murasaki no Yukari, n'est-ce pas, l'histoire de Murasaki et en même temps le lien de Murasaki, et à son héroïne, la jeune Wakamurasaki, le jeune Grémil, dont le nom de Komurasaki, de la courtisane que nous avons vue la semaine dernière, rappelait aussi le nom. Donc tout s'enchaînait dans une parfaite harmonie de transposition, donc mitaté. C'est ainsi que je traduis, je pense ne pas être le seul à traduire ce procédé littéraire et artistique qui fait floresse à l'époque d'Edo et qui est vraiment l'un des procédés systématiques de Saikaku, comme nous le verrons peu à peu se dérouler jusqu'à l'apothéose finale. Nous allons voir aujourd'hui, en abordant le livre 3 du Grand Miroir des Galanteries, alors je ne reviens pas sur le fait que j'ai changé mon Grand Miroir des Voluptés en Grand Miroir des Galanteries, peut-être pour la déception d'une partie du public, peut-être, mais je pense qu'il est plus fidèle de traduire ainsi. Donc, ce Grand Miroir des Galanteries, nous allons voir que Saikaku ne fait pas non plus fi d'une autre dimension romanesque, tout aussi traditionnelle au Japon, et tout aussi vigoureuse à son époque, celle du récit surnaturel. À l'époque d'Edo, on voit des collections entières de récits surnaturels, de kaikishosetsu, de kiden, etc., qui fleurissent partout, l'art aussi. Et puis évidemment, nous en avons en quelque sorte les conséquences à l'époque moderne, avec la vogue dans les dessins animés, les mangas, les films, même des yokai, n'est-ce pas, que tout le monde connaît à présent. Tout cela a été systématisé à l'époque d'Edo. Alors curieusement, ce roman, ce Grand Miroir des Galanteries, comporte quelques épisodes qui le rapprochent des récits fantastiques traditionnels. Fait, semble-t-il, unique, au moins dans la tétralogie des Kōshokumono, des romans portant sur les plaisirs, l'érotomanie, je dirais, de Saikaku. Ils ne sont pas du même ordre que, par exemple, la vision horrifique de la Lichidai-onna, n'est-ce pas, cette sorte de Traviata qui peut s'expliquer par les affres de sa conscience. Vous vous souvenez, la vision horrifique où elle voit par la fenêtre tous les avortons qu'elle a eus au cours de son existence et qu'elle estime à 93-94, n'est-ce pas. Nous avons ici affaire à des bakemono, des plus classiques, c'est en tout cas au début. Au point que, là encore, nous devons y voir l'humour de Saikaku, qui nous invite à voir le surnaturel derrière les faits les plus ordinaires de la vie du Kuroa, et vice-versa aussi, comme nous allons le voir, sans doute dans le souci de mettre en relief à quel point il s'agit d'un monde particulier dans lequel les mœurs de la société extérieure ne sauraient prévaloir. Voyons donc, à titre d'exemple, les premiers chapitres du livre 3. Dont les trois premiers chapitres, donc les chapitres 1, 2 et 3 du livre 3, présentent tour à tour des traits que l'on peut estimer relevant du récit fantastique. Bien que la chose puisse se discuter pour tous, Saikaku est un auteur trop complexe pour être ainsi étiqueté, n'est-ce pas ? Nous laisserons aux spécialistes de l'auteur le soin de décider si ce trait de cohérence relève d'un propos délibéré auquel il aurait ensuite renoncé, ou bien de l'association d'idées rapidement dissoute par l'élan de la narration, ou encore s'il s'agit tout simplement d'une certaine indécision du romancier concernant le contenu même de l'œuvre. Vous savez, ce Koshoku Nidai Otoko est très bizarrement construit. C'est-à-dire, on a l'impression que, je reviendrai bien sûr là-dessus, que ce sont des récits fragmentés que Saikaku voulait sans doute remettre dans un tout, comme il avait fait pour le Ichidai Otoko, le premier homme, le premier amoureux de la volupté, comme il l'avait fait pour le Ichidai Onna, et qu'il n'a pas pu, il n'a pas eu l'envie, et qu'il l'a gardé comme cela sous forme fragmentaire, en donnant des prétextes narratifs sur lesquels je vais revenir tout de suite, des prétextes narratifs qui expliquent ce côté fragmentaire. Nous remarquerons qu'encore une fois apparaîtra le thème de l'écrit transmis, de la transmission d'un texte qui se rattache directement à l'épisode fondateur du chapitre 1, placé sous le signe d'une double transmission, vous vous souvenez, la transmission du père, donc de l'Ichidai Otoko à son fils, de Nidai Otoko, et puis d'autre part, la transmission de la vieille rouée, la vieille maquerelle, on peut dire, la yadité, n'est-ce pas, qui s'appelle Kuni et qui donne à Yoden, cette fois donc le narrateur, un récit de tous les mystères du Kuruwa. Alors, nous avons maintenant ce premier récit, qui est intitulé, comme vous le voyez, le bonheur vulpin, n'est-ce pas, c'est-à-dire le bonheur de renard, c'est-à-dire un bonheur qui arrive brusquement, Kitsune, de la porte Shujaku, de la porte de l'oiseau vermeil, donc c'est la porte sud de Kyoto. Vous savez que Kyoto est disposée selon les quatre points cardinaux chinois, donc le sud étant l'oiseau vermeil, connu en anglais sous le nom de Vermilion Bird. Et donc le bonheur inattendu, la rencontre inattendue de la porte de l'oiseau vermeil, qui est aussi, bien sûr, c'est la porte par laquelle on sort pour aller vers le quartier des plaisirs de Kyoto, le Shimabara, ce qui fait tout l'intérêt de cette situation. Donc le chapitre débute, comme souvent, presque toujours par l'entrée en scène d'un petit groupe de noceurs. Les protagonistes ne sont jamais seuls chez Saikaku et au Japon en général, et même souvent lorsqu'on parle d'ermite et tout ça, l'ermite a un assistant, un aide, un factotum, n'est-ce pas ? Donc un petit groupe de noceurs dont le prétexte de leur excursion est une visite au temple du Tofuku, le Tofukuji, qui est de l'école Zen Rinzai, pour l'anniversaire de sa fondation. Bon, ça peut nous donner, mais enfin, ça peut être l'anniversaire annuel aussi, parce qu'il a été fondé en 1236, alors évidemment, 1636, ce serait le quatrième centenaire, mais je ne pense pas que ça ait un rapport. Le meneur, un certain Kuhei la tortue, Okame no Kuhei, Okame est un évidemment, c'est assez dépréciatif, ça peut évoquer une certaine lenteur. Dans la langue chinoise, la tortue évoque l'homme trompé, le cocu, n'est-ce pas ? Donc, ça n'est pas passé suffisamment en japonais pour que ça puisse avoir un sens ici. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Donc Kuhei, la tortue, propose de passer par une villa dont il connaît le propriétaire, à Kurodani, quartier bordé par les collines de l'est de Kyoto. Kurodani, c'est du côté donc de l'est de Higashiyama, n'est-ce pas, vers le bas de Higashiyama, pour ceux qui connaissent Kyoto. Il s'agit en réalité d'un mini-quartier des plaisirs clandestins, un lieu de rencontre de qualité, comme on dirait, n'est-ce pas, que l'on appelle Kakurezato. Donc c'est un établissement qui n'est pas sous le contrôle des autorités, mais plutôt de gens riches ou d'une guilde marchande, etc., récemment installée. Le détour donne lieu à une description pittoresque que nous donnerons ici simplement sans le texte original. Je ne vous ai donné que quelques textes parce qu'il y en a, comme il y en a beaucoup trop et que je dois les retranscrire à chaque fois parce que sinon ils ne sont pas très lisibles, comme vous l'avez vu la dernière fois. Je donnerai simplement les principaux, les plus intéressants pour la langue ou les expressions. Je vous lis simplement ce texte ici. Kuhei s'annonça, donc dans cette ville-là, n'est-ce pas ? Et ils entrèrent dans le salon où s'étalaient les traces des excès de la veille. Des costumes de no étaient jetés en désordre. Donc un masque de spectre, un suji otoko, n'est-ce pas ? Et brisé en deux, était repoussé dans un coin. Le saule délimitant un terrain de balle au pied, c'est pas le football japonais, mais c'est la balle au pied, une sorte de jeu de paume, sauf que ça se faisait avec les pieds qu'on appelle le kemari, n'est-ce pas, qui est un jeu attesté déjà depuis l'époque de Nara et qui est l'un des traits de la vie de cour de l'époque de Heian. On en parle aussi dans le Genji. Donc, alors le terrain était, le terrain pouvait être signalé, par un saule, n'est-ce pas, qui marquait la limite. Ici, il était sans doute en peau, mais donc le saule délimitant un terrain de balle au pied gisait déraciné. Qu'avait-il bien pu se passer ? Bon, on peut s'imaginer. Plus loin, une kannon, donc un dessin de la statue de la déesse Avalokiteshvara, n'est-ce pas, du Bodhisattva du Salut, apparemment peinte par Sesson, donc Sesson qui est un grand peintre de l'école Zen de Muromachi, était suspendue dans le salon de thé. Donc, elle s'était vue affublée à chaque main. On avait dessiné sur la peinture, n'est-ce pas ? Ce sont vraiment des vandales. S'était vue affublée à chaque main d'un couteau de cuisine et de baguettes à poisson. Donc un bodhisattva qui découpe le poisson pour le manger, c'est pas très bouddhique. Tandis qu'un graffiti indiquait, on avait en plus griffonné sur la peinture, n'est-ce pas, un graffiti indiquait Namagusadera, c'est-à-dire le monastère des carnivores, le monastère où l'on mange de la viande, comme vous le savez, c'était, ce n'est pas que ça ne se faisait pas, mais en tout cas, on ne le disait pas. Tout de même, on avait exagéré. En japonais, Satemo Oshikikotokana, ne concerne apparemment pas un blasphème qui choquerait Saikaku, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce qu'on a transformé Kanon en mangeuse de poisson que Saikaku porte ce jugement, mais c'est le fait que l'on ait ainsi gâché un précieux tableau du grand artiste zen Sesson, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est là-dessus que porte l'exagération. La visite se poursuit avec un bref épisode qui donne la mesure du personnage. Kuhei n'est pas très... on trouve rarement chez Saikaku des héros entièrement positifs. Voici. Après cela, en ouvrant la poterne du sud, ils aperçurent, au-delà d'une courette parsemée de sable de Hyogo, bon, c'est une courette aménagée un peu à la façon d'un jardin zen, si vous voulez, une véranda de bois sur laquelle se trouvait alignée une trentaine d'orchidées en pot. Et dans la pièce du fond, 7 ou 8 petites soubrettes d'une quinzaine d'années, aux cheveux coupés en franges, aussi jolies les unes que les autres. Malgré le froid, l'une d'entre elles ne portait qu'un courte manche blanc, donc un simple dessous de kimono. Elle avait une lanterne de fer attachée au pied. Et on était allé jusqu'à marquer le nœud d'un seau. Donc, elle ne pouvait pas marcher sans faire un bruit d'enfer. Et elle était condamnée à rester immobile. Le nœud, la corde avec laquelle elle était attachée, on avait mis le seau du propriétaire de la maison dessus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la détacher sans sa permission. Et la petite était en larmes. Alors qu'il la regardait perplexe, la matrone d'âge respectable qui s'occupait des lieux survint. C'est la déléguée, n'est-ce pas, du lieu de plaisir clandestin. La nuit dernière, cette jeune personne a heurté une lampe au salon et l'a laissée s'éteindre. Le maître de séance, qui avait un peu bu, a ordonné qu'elle fût ainsi punie. C'est une vue si pénible. Obtenez-lui vite son pardon, le supplia-t-elle. Donc, comme il a ses entrées auprès du propriétaire, et on lui demande d'intercéder pour la petite serveuse. de sa petite servante. Et lui répond, mais non, il n'y a pas de raison, je ne vais pas le déranger. Vous voyez le degré de courage. Et Kuei passa son chemin pour échapper à cette corvée. La lâcheté égoïste de la tortue, Okame no Kuei, ainsi suggérée, la visite se poursuit par la description minutieuse d'un salon muni de quatre kotatsu. Les kotatsu sont des espèces de tables sous lesquelles est aménagée, pas forcément, mais ça peut être de plusieurs façons, mais en principe est aménagée une cavité au fond de laquelle on met un brasero, ce qui permet de se chauffer l'hiver. La table est couverte d'une couverture, justement, d'une nappe épaisse qui empêche la chaleur de s'échapper. Donc on met les jambes sous la table et c'est une chaleur tout à fait bienvenue quand on connaît les maisons japonaises traditionnelles, même encore maintenant, enfin quoi que ce soit de moins en moins supporté par les Japonais eux-mêmes. Donc la visite se poursuit par la description minutieuse d'un salon muni de quatre kotatsu, où l'indigne personnage n'a malheureusement pas le temps de prendre ses aises, car on lui fait passer une lettre à remettre au plus vite. On comprend ensuite que c'était une personne du quartier des plaisirs, de Shimabara, n'est-ce pas, à remettre une lettre au plus vite. Donc, il s'enfuit donc précipitamment et, surpris par une giboulée auprès du Chion-in, nous sommes toujours dans le quartier est de Kyoto, de Higashiyama, il se procure un parapluie avant de se remettre en route. La scène suivante montre qu'il lui reste malgré tout du cœur, car Saikaku se garde bien de décrire ses personnages comme radicalement mauvais. Il faut dire aussi qu'ils sont rarement parfaitement bons. Donc, voilà, c'est ce que je vous donne ici, n'est-ce pas ? Donc, Isogu Tsuide Nagara, Miboni Yorukoto Arite, etc. Donc, tout pressé qu'il fût, il avait en plus affaire à Mibu, ce qui lui fait faire un détour par le Nakagyoku. Donc, c'est quand même assez... donc, il revint vers l'ouest. Comme il allait sur la route à travers champs, il vit, marchant devant lui, l'air découragé, une vieille femme d'au moins 70 ans, trempée par la pluie. « Aha no koto omoi dashite », vous voyez, ligne 4, « kasa o kashite okureba », donc, il se souvint de sa propre mère, il y a quand même, donc, tout à l'heure on l'a vu en plein égoïsme, mais là, voyant la vieille dame et se souvenant de sa mère, il se souvint de sa propre mère et lui proposait de l'abriter. La vieille ne cacha pas sa joie et se lança dans des confidences. Towazu Gatari, vous connaissez tous le nom de ce célèbre roman du XIIe siècle. Enfin, c'est un roman qui a été découvert de façon un peu miraculeuse au début du XXe siècle et qui est d'un contenu psychologique tellement singulier qu'on peut parfois se demander s'il n'a pas été rédigé beaucoup plus tard qu'on ne le dit. Enfin, en tout cas, vous voyez que l'expression « Towazu Gatari », donc littéralement « histoire que l'on ne demande pas », confidence faite spontanément par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Donc, elle se lança dans des confidences auxquelles il prêta une oreille de plus en plus attentive. « Kikuhodo mimiyori nari », n'est-ce pas ? Elle se montre en effet très au fait de ce qui se passe dans le milieu, du quartier des plaisirs. Elle lui tira légèrement la manche. « Ne savez-vous pas que je suis au mieux avec Dame Constance, Misao-sama, donc une courtisane qui a quelque importance ? Quel honneur ! Est-ce quelqu'un du Shimabara ? Non pas, mais elle n'ignore rien de ce que les courtisanes cherchent à cacher sur elles-mêmes. En ce moment, au premier étage de la maison du chiffre 8, il y a la petite étaillère qui a bien mal au ventre. C'est qu'elle a abusé du vin la nuit dernière. À la maison Izutsu, la Sekishu se fait retirer son grain de beauté, alors qu'il rehaussait tant l'éclat de son visage. Elle disait tout cela comme si elle l'avait vu de ses yeux. Rien de bien extraordinaire dans ces révélations, mais notre homme est à l'évidence un esprit fort et se livre sur le champ à une expérience digne de l'union rationaliste, parce qu'il pense que la vieille le fait marcher en lui disant n'importe quoi, des choses qu'il ne peut pas vérifier. Il tira la lettre qu'on venait de lui confier de sa poche intérieure et, sans montrer la suscription, lui demanda où il la portait. La réponse lui apporte alors beaucoup plus qu'il ne demandait. Là aussi, je ne vous donne pas le texte parce que ce serait trop long. Eh bien, à Dame Trois Vépré, n'est-ce pas, Sanseki, il y est dit sans nul doute que l'on est d'accord pour le jour de l'an. Pour sûr, cet étaillère prend son office très au sérieux, dans le moindre détail. Il reste encore 70 jours. Et d'ici là, alors évidemment, le jour de l'an est un événement très important dans le quartier des plaisirs comme ailleurs, où les courtisanes se doivent d'échanger avec leurs clients des étrennes, et même comme c'est en quelque sorte la partie la plus intéressée, elle doit montrer qu'elles font un suivi du client tout à fait attentif, et c'est l'occasion de donner des cadeaux parfois somptueux, c'est-à-dire plus le client est donateur, plus le cadeau doit être somptueux, et c'est un problème très important pour les courtisanes. Saikaku y fait toujours référence. Donc une bonne partie de la stratégie des courtisanes consiste à recueillir le plus d'argent possible de leurs dévoués les plus gogo possibles pour avoir l'argent suffisant pour assurer leur rang au jour de l'an. Donc il reste encore 70 jours, et d'ici là, elle aurait pu harponner quelques blancs-becs. Mais pour ne pas rater le réveillon, elle bombarde tout le monde de requêtes en de longues missives sous double enveloppe, qu'elle cachette en plus d'un sceau à ses armes. Quel luxe de précaution! Jusqu'à l'ère Eiroku, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle auparavant, même les lettres ordinaires n'étaient pas cachetées dans leur enveloppe. À plus forte raison, alors, vous le pensez bien, les plis des courtisanes, jetés sitôt lus et qui ne servaient que de distraction passagère. Les lettres ordinaires, c'est-à-dire les lettres du monde hors du quartier des plaisirs, qui avait quand même plus d'importance pour elle donc que ces lettres qui ne signifient rien d'autre que des relations intéressées. Mais naguère, lorsque ce quartier se trouvait encore sur la 6e avenue, vous savez que les quartiers des plaisirs ont souvent bougé au Japon, une fille du nom de Scarabée d'or, Tamamushi, envoya pour la première fois une lettre cachetée à l'un de ses clients pour lui faire requête de 1000 sols, monmé, n'est-ce pas ? Puis, de proche en proche, ce fut des 20 et 30 écus qu'elle réclamait pour son intimité. L'élu de son cœur en vint à redouter ses poulets plus encore que des lettres de change. Et cela n'arrive pas qu'à la capitale. Une fille ne devrait pas prendre son sceau en dehors de l'inscription à l'état civil, que pour les formalités de mise en gage. Vous voyez, elle lui déballe tous les secrets du quartier. Encouragée par l'hilarité de son interlocuteur, elle se lance ensuite dans une diatribe détaillée sur les petits arrangements des courtisanes, au point que la tortue commence à être vraiment intriguée. Elle faisait ainsi défiler les exemples. Je ne crois pas là-bas. Non. Elle faisait ainsi défiler les exemples de mesquinerie de filles qu'elle semblait connaître comme si elle les avait faites. Le japonais dit « Samoshiki kokorone no hodo, shitori shitori unda yo ni iukoto », ce qui ne laissa pas que d'effrayer son compagnon de route. Commence à se demander si quand même il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas vraiment quelque chose de surnaturel dans tout cela. Mais voici qu'arrive le dénouement auquel nous commencions à être préparés. Ce n'est pas encore la citation. La citation arrivera tout à l'heure. Arrivé à proximité du temple de l'oiseau vermeil, donc un temple qui est situé près de la porte du même nom, elle lui dit « Nous sommes en vue du village où je demeure. Je n'ai plus le temps de vous narrer tout cela. » Elle sortit de son sein un cahier qui portait en titre, alors en japonais, « Uasamachi no Nikki », n'est-ce pas, que je traduis par « Le diaire de Potainville », « Le journal de Potainville », n'est-ce pas. Et elle lui décrit le trésor d'informations qu'elle lui remet entre les mains. Exemple concret à l'appui. Voici. Il y a ici, sans omission aucune, et vous allez voir que ça va continuer, avoir une un retentissement sur la suite de l'histoire, il y a ici, sans omission aucune, les faits et gestes des 20 dernières années en ce domaine. N'allez surtout pas en douter. Pour preuve de la véracité de mes dires, sachez qu'en la maison de rendez-vous où vous allez maintenant, voyez, elle sait où il va, les courtisanes se sont réunies en disant « Avec une telle pluie, il n'y aura certainement pas de clients aujourd'hui. Allez, cotisons-nous pour passer un bon moment. » Elle se régale de dorades grillées au bois de cryptomère et même d'oignons blancs. car une rouée leur a appris qu'on efface l'odeur en léchant du bousin. Évidemment, les oignons, ça laisse quelque chose dans la laine, et quand un client arrive, ce n'est pas bien, ce n'est pas recommandé pour le commerce, n'est-ce pas ? Et une rouée leur a appris qu'on efface cette odeur en léchant le bousin. C'est, en japonais, kabetsuchi, c'est l'espèce de dépôt qui se fait sur les pierres des maisons, n'est-ce pas ? Une espèce de salpêtre, je suppose, et il paraîtrait que ça efface l'odeur les odeurs trop fortes. Bon, ceux qui ont mangé de l'ail, des escargots à l'ail à midi peuvent toujours essayer de lécher les pierres après du restaurant. Alors, elle continue. Les baguettes s'entremêlent dans la poissonnière. On se dispute les bons morceaux autour des yeux. Il faut savoir qu'encore maintenant, au Japon, les morceaux les plus délicats de la tête du poisson, c'est la chair qui est autour des yeux. La fête est en train de battre son plein. Mais, parmi elles, une étaïre, les cheveux défaits, ne mange rien. Elle préfère prendre une décoction en poudre dans de l'eau bouillie. Une décoction, un médicament abortif, n'est-ce pas ? L'enfant, dont ne sait qui, lui torture les entrailles où il s'est installé. Donc Et voici le coup de théâtre que je vous donne ici. Après ces révélations, donc elle a vraiment un don de clairvoyance, n'est-ce pas ? Tandis qu'elle parlait ainsi, deux renardeaux qui la regardaient d'un buisson éloigné, Haruka Naru Kusamura Yori, montrèrent, au lieu de s'enfuir, tous les signes de la joie. La physionomie de la vieille se transforma. Alors vous voyez que Baba Meno no Hiro Kawari, elle ne se transforme. Là, Saikaku fait très attention, n'est-ce pas ? C'est simplement sa physionomie, l'éclat de ses yeux se transforma et elle partit avec eux pour disparaître au fond d'un trou sans laisser de traces. Buko no Ananirite Atonashi. Nous voyons que Saikaku se contraint malgré tout à une certaine réserve. Dans un conte fantastique normal, la vieille femme, ou le plus souvent une jeune femme, se serait transformée en renard sous ses yeux. Mais ici, il n'y a que son regard qui change. Et la scène est prétexte à une dernière plaisanterie. Ça alors, c'était sûrement la fameuse renarde du Shimabara dont j'ai entendu parler plus d'une fois. Satewa kanete kikitsu no Shimabara gitsune naru beshi. On s'en doute. La renarde a en japonais le même sens que lupa en latin, c'est-à-dire la prostituée. Mais l'occasion était trop belle de replacer cette plaisanterie facile. On lira la fin lorsque notre traduction sera publiée. Le bref instant de générosité de la tortue, qui lui a valu une source d'informations inépuisable, lui permettra aussi, par un chantage habile et plus digne du personnage peu recommandable qu'il est en réalité, de réunir assez d'argent pour ouvrir une taverne à l'enseigne de son surnom, la tortue, et de ne plus avoir, comme dit le texte, à épousseter les moustaches des riches. Kono tokoro no ohige no chiri o toriyamete. C'est certainement une fin heureuse selon Saikaku. Avec le dière de Potainville, n'est-ce pas, Uwasamachi no Oniki, nous avons donc le quatrième texte transmis dans le miroir des galanteries. La transmission secrète de Yonosuke à son fils bien-aimé, le texte oral, puis écrit par Saikaku lui-même, de Kunila Makrel, sorte de Kojiki du Kudowa, et le recueil intitulé « Ma vie, Wangami no Ue » de la courtisane qui refusait de faire une lettre de serment du livre 1. Cette évocation répétée d'écrits transmettant les secrets d'un monde aussi singulier que le quartier des plaisirs révèle ce que Saikaku entend faire dans ce recueil. C'est même probablement la raison de son caractère éclaté, fragmentaire, à première vue décousu. Il ne fait que suivre une structure de notes quotidiennes dont l'ensemble révélera la nature profonde du monde flottant. Cela explique aussi l'usage plaisant qu'il fait d'un thème très répandu de la narration fantastique en Chine comme au Japon, la renarde, qui, sous son aspect métamorphique de beauté féminine, envoûte les hommes pour les mener à leur perte. C'est l'usage familier du terme pour désigner une prostituée qui amène l'auteur à faire à rebours le chemin de l'allégorie populaire. La renarde en est bel et bien une. Même le surnaturel chez Saikaku est à prendre avec une bonne pincée de sel. En réalité, nous avons presque affaire ici à un rakugo, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un de ces récits à chute. Le Rakugo Ochi, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est la chute finale qui fait tout le côté du roman, et on voit que toute l'histoire en réalité est préparée simplement pour dire Saté, n'est-ce pas, Shimabara Gitsune no Kotoka, c'est en réalité le point de départ. On a affaire à une ancienne prostituée de Shimabara, et Saikaku décide de prendre le surnom au mot, à la lettre, littéralement, et il la transforme en renarde. Cela se voit encore, quoique sous un autre jour, dans le chapitre suivant, le deuxième du livre 3, dont le titre est « L'annonce désintéressée ». « Yoku stete takafuda ». L'annonce, c'est-à-dire l'annonce que l'on fait perdu un portefeuille, comme nous l'avons ici. Tout en donnant de larges extraits, nous ne pourrons l'aborder en son entier, tant elle fourmille de détails accessoires, comme toujours c'est Saikaku, mais de détails qui ont pourtant leur importance pour nous mettre au milieu de cette vie quotidienne hors du monde. L'enchaînement narratif, encore une fois, « innen », n'est-ce pas, l'enchaînement causal, est ici encore assez complexe. Nous sommes d'abord à l'embarcadère des Chokibune, ou les bateaux de passe, Akushobune, littéralement les bateaux des mauvais lieux. C'est pour ça que nous permettons de traduire par les bateaux de passe. N'est-ce pas ? Ce sont les bateaux qui mènent les clients enthousiastes au quartier des plaisirs du Yoshiwara à Edo, puisqu'il faut franchir le fleuve d'Edo, ou bien l'un de ses affluents, pour y aller. Ces barques referont surface dans les écrits d'un habitué plus récent de ces quartiers, le grand écrivain Nagai Kafu, n'est-ce pas, qui est mort en 1959 et qui a décrit dans la Sumidagawa, et puis par exemple dans un texte comme Yoru no Kuruma, dont je vous ai peut-être parlé la dernière fois, il parle bien de cette Chokibune qui existe encore à son époque, avant que les autorités d'occupation américaine ne suppriment le Yoshiwara, n'est-ce pas. Alors, donc, je vous lis le début de cette histoire. À l'embarcadère des barques de passe de la rivière Asakusa, on avait placardé cet avis. La nuit dernière, sur la barque Biram du retour, la barque à deux rames, un groupe de guerriers et leur suite, inconnus en ces parages, a oublié au moment de monter sur le quai un portefeuille de rat gris, au fermoir marqué d'un blason à trois glycines et macre, et contenant un quart d'écu et 250 sols, une applique de sabre gravée de trois lions, une corde à ligoter, cinq plis fermés d'une écriture féminine, et, outre cela, plusieurs accessoires galants que nous tiendrons à terre ici. Kasha Dogu, n'est-ce pas, accessoires galants. Bon, on peut penser, on peut s'amuser à penser ce qu'on en veut de ce qui est désigné ainsi. Ils seront intégralement rendus à leurs propriétaires, s'adresser à n'importe quelle heure à l'embarcadère en demandant Toemon pieux brûlé. Moegui no Toemon. Nous n'assisterons pas sur les allusions qu'il peut y avoir dans ce surnom. D'ailleurs, pour la tortue aussi. L'annonce produit l'effet escompté, car peu de temps après, je continue la narration. La nuit du 29 du 6e mois de l'année du singe, alors là, un commentateur dit qu'il doit s'agir de 1680, étant donné que le roman a été publié en 1684, et l'année du singe la plus proche est 1680, quelqu'un est là à la barque du dit Toemon. Le hasard voulant qu'il fût là, il fit monter les arrivants à son bord. « Vous devez être pressé, je le conçois bien. Mon esquive volera comme la mouette du poème. » Mais il y a Donc, et l'autre répond du tac au tac, « Et moi, je lui demanderai volontiers à cette mouette des nouvelles de la dame de mes pensées. » C'est une allusion donc à un poème du Issei Monogatari, donc cette œuvre littéraire qui précède le Genji Monogatari, donc qui est du milieu du Xe siècle. Et nous voyons tout de suite que ce dialogue se fait entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas ? Le batelier, qui est quand même batelier d'un bateau de passe du Yoshiwara, c'est dans la société japonaise, c'est pas très reluisant comme statut. Mais le fait qu'ils échangent ainsi des allusions poétiques montre que tout de suite ils appartiennent au même monde. Alors. Et donc l'autre répond du tac au tac, celui qui veut s'embarquer sur la barque. Je lui demanderai volontiers à cette mouette des nouvelles de la dame de mes pensées. Alors vous voyez tout de suite comment va s'enchaîner l'histoire. N'y aura-t-il pas dans ce que vous avez retrouvé des lettres quotidiennes allant du 22 au 6 de ce mois ? Rendez-moi seulement cela, tout le reste m'importe peu. Toémon, pieu brûlé, est serviable mais non naïf. Il tient donc à vérifier la bonne foi du quémandeur, ce qui est prétexte à un échange plaisant pour le lecteur, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, pas plus que les lettres, je ne garderai le moindre objet, vous rendrai le tout. Mais sans que je mette le moins du monde en doute votre bonne foi, pourriez-vous me dire le début de la lettre du 22 ? Et l'autre, je ne m'en souviens que vaguement. Et puis, vous allez voir, il dit « je ne m'en souviens que vaguement », et lui, il la récite par cœur, n'est-ce pas ?« Nulle brise ne souffle aujourd'hui pour me parler de la cerisée en ce quartier sans fleurs où je demeure. Quelle horreur se baignant sous la neige peinte à l'encre sur l'éventail. Il me rappelle... » Voilà, c'est ce que je vous donne ici, n'est-ce pas ? Vous avez donc... vous avez les allusions littéraires aussi, n'est-ce pas ? Soumie no, no on ogi ou sensu, n'est-ce pas, on yogi, yuki no basho wa iyayo. Vous voyez que ce mélange langue classique et langue parlée. Il me rappelle pas trop qu'en ce monde, les hommes sont là pour nous tromper. Si je fais le même rêve que la songeuse fille de Nogami, ce sera toute votre faute. Alors, vous voyez, nous avons ici une double allusion. La fille de Nogami, c'est l'héroïne des environs de 1500, enfin du 15e siècle, qui est l'histoire d'une fille d'une province du Nord qui va du centre du Japon qui va chercher à la capitale son amant qui l'avait délaissé. Et dans le No, elle fait référence à un poème de chinois des Han postérieurs, n'est-ce pas, des Han antérieurs, pardon, où une concubine impériale se compare à un éventail abandonné. Donc vous voyez, tout y est. Et en plus, donc, le baignant sous la neige est aussi une allusion à un poème chinois du très grand poète Wang Wei, n'est-ce pas, Oi en japonais, un poète du 7e siècle. C'est un peu comme disait le regretté Bourville, un oranger sur le sol irlandais, donc un baignant sous la neige, c'est une impossibilité. Donc tout ça est mis ensemble. Alors, donc, si je fais le même rêve que la songeuse fille de Nogami, ce sera tout de votre faute. Et, un peu confus quand même, il dit, de grâce, laissez-moi taire la suite. Ces lignes, où se mêlent réminiscences littéraires et traits dialectaux d'Edo, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'elle dit aussi, Yuki no basho wa iyayo, qui est un trait du dialecte d'Edo. Nous ne sommes pas dans le Kansai, en plus c'est de la langue parlée. Et vous vous souvenez peut-être que dans la scène de la dernière fois, la Komurasaki, la petite violette, si vous voulez, se fait remarquer alors que nous sommes dans la partie ouest dans le Kansai. Elle se fait remarquer, parce que nous sommes à Yoshino même, elle se fait remarquer par des traits dialectaux d'Edo, et c'est justement le iyayo qui était le signe de ce dialectal. Oui. Alors ces lignes font éclater de rire, bien sûr, tout le bateau, c'est très embarrassant, et on s'étonne encore une fois de ce à quoi sont réduits ceux qui sont entrés dans le labyrinthe du quartier des plaisirs. Voici je ne voulais pas donner. Les profondeurs de cette voie, Shikido, n'est-ce pas, la voie du plaisir, sont tout bonnement impossibles à décrire à autrui. Kono michi no okufuka ki wa shito ni katarare no koto no mi, dit le marinier en lui rendant le portefeuille. Il a fait preuve de sa bonne foi. Et nous allons voir qu'il sait de quoi il parle. Il refuse catégoriquement la récompense d'une pièce d'or, qui est donc une très grosse somme, que veut lui donner le passager. Mais celui-ci, ayant pris place, lui demande ce qu'il faisait avant d'échouer dans ce métier, car il est évident que la noblesse de son comportement trahit en lui le déclassé. Évidemment, la bonde est lâchée. Il raconte, l'autre, le marinier, va raconter sa vie, le bâtonnier. « Tel que vous me voyez à présent, je suis originaire de Utsunomiya, au nord des Dômes. Abandonné des dieux, des bouddhas, de l'amour, de mon père, si méprisable que pût être ma condition, comment m'appropriais-je ce à quoi je n'ai pas droit ? Et bien sûr, c'est le mot amour, koi, n'est-ce pas, à mon donné de l'amour et de mon père, qui éveille l'attention. Allons, de l'amour, dites-vous. Quelle est donc la personne pour qui vous soupirez encore ? Et l'enchaînement causal se poursuit, toujours inéluctable. Le batelier avoue qu'il était tombé éperdument amoureux d'une étaïre nommée Nishio, après avoir mené une vie fort désordonnée avec toutes les autres du Kurua, du quartier des plaisirs. Mais depuis 2 ans, il ne pensait plus qu'à elle. Et l'on comprend que c'est afin de ne plus quitter ce quartier où elle vit qu'il a choisi cette occupation peu honorable qui lui permet de prendre sa part des vagues incessantes de désirs qui déferlent vers le lieu des trésors. En hâtant mon esquif, j'imagine l'état d'esprit de ceux qui arrivent, de celles qui attendent. Il est donc batelier par empathie. Mais le passager est éperdu d'admiration. Ce qu'il a fait, dit-il, ni le Bouddha Shakyamuni, ni une courtisane ne l'auraient fait. On reconnaît encore ici le coup de griffe de Saikaku, n'est-ce pas ? Ni le Bouddha, ni une courtisane n'aurait fait acte de telle générosité. Qui plus est, et alors là, c'est là que ce n'est plus le hasard, c'est vraiment le lien karmique, n'est-ce pas ? Lui aussi se consume d'amour pour la même courtisane, pour Nishio, la Nishio, mais avec plus de succès, puisqu'il en est le patron en ce moment, si vous voulez. Et le portefeuille bien garni que le batelier a retrouvé, avec les lettres afférentes, était destiné à couvrir ses dépenses pour les fêtes à venir. Encore une fois, l'obsession des courtisanes, c'est d'avoir suffisamment d'argent, non seulement pour elles, ça aussi, bien sûr, elles veulent toujours assurer un pécule pour l'avenir, mais aussi pour les cadeaux somptuaires qu'elles doivent faire. Et générosité pour générosité, il propose au batelier de plaider sa cause auprès de la Nishio. En ce cas, accepterait-il de la rencontrer ? Et il reçoit cette réponse intrigante. « Pauvre de moi, voici. Kore wa nasake nashi, yumi ni sae, makoto no sugata o miba, inochi to yumono arubekia. » N'est-ce pas ? « Pauvre de moi, il me suffit de rêve. Si je la voyais en personne, réellement, pourrais-je rester en vie ? » Et il ajoute ce « Orikara wa maboroshi ni miru koto mo momotabito. » Souvent, il m'arrive de voir jusqu'à 100 fois son mirage, maboroshi. Vous vous souvenez du Genji Monogatari où ce terme avait joué un si grand rôle, il le joue dans la langue japonaise en général et dans ses connexions avec le bouddhisme et le surnaturel. Tout lecteur, et les auditeurs du batelier aussi, pensera qu'il s'agit ici d'une exagération poétique de l'amoureux transi. Mais voici que les éléments viennent démontrer la véracité de son affirmation. Un orage violent éclate, avec une pluie battante, qui vient mettre à mal les frêles esquifs, il y a deux barques, vous allez le voir tout à l'heure, jetant la peur dans le cœur des passagers qui commencent à faire leurs prières. La description qu'on lira dans le roman fait presque penser à Virgile et montre encore une fois la maîtrise du romancier. Et soudain arrive l'incroyable. Yukusue no ue ni imamade wa aritomo oboe no murasaki dachitaru suji wa haete. En amont du courant, une traînée violette, murasaki encore une fois, murasaki dachitaru suji, une violacée, à laquelle personne n'avait prêté attention, s'était levée. Et brusquement apparut la forme d'une femme assise, vêtue d'une mante. Sa chevelure flottante était ramenée en arrière. Bon sang, elle est à perdre la vie, vous voyez, comme il disait tout à l'heure, de l'espoir. Yare, inochi, otolua, osse, osse. Elle est à perdre la vie, poussez, poussez. En tendant l'oreille dressée à la proue, ils crurent entendre un chant. C'était exactement, à l'écouter, la voix au perché de la Hatsuyama. Prime Mon, n'est-ce pas ? Célèbre chanteuse de Yoshiwara de l'époque. C'est un nom de personne qui existe. Saikaku, il faut vous dire, enfin vous l'avez déjà vu, Saikaku met très souvent, insère très souvent dans ses récits des noms de personnes qui ont réellement existé pour donner beaucoup plus de véracité, donc des personnalités du Yoshiwara ou du Shimabara pour donner, ou de Shimachi, comme nous allons le voir tout à l'heure, de Osaka, donc des personnalités des trois grands quartiers de plaisir du Japon de l'époque. Hein, je vous rappelle, je sais pas, vous avez par ordre, enfin, le Yoshiwara de Tokyo, le Shimabara de Kyoto et le Shimachi de Osaka. Donc on entend la voix au perché de la Hatsuyama, accompagnée par ce qui leur semblait être une cithare de l'école d'Ichikawa, un koto, n'est-ce pas ? Y aurait-il aussi un Yoshiwara au fond des flots ? Est-ce que ça vient de au fond du fleuve, il y aurait le pendant surnaturel ? Alors qu'ils allaient dans leur désir de voir le visage de la femme qui se tenait devant eux, celle-ci se retourna. Et on s'y attend, c'était la Nishio. On ne peut plus surpris, ils lui adressèrent la parole, mais elle ne répondit pas. Et Toemon, le batelier, l'interpella alors. Il ne s'agit, il n'est vrai que de mon cœur le plus intime, Wanya Kokoro Dama Nimoseyo. Mais vous montrerai-je un signe de la profondeur de mes sentiments ? Il se propose donc de la rencontrer d'une façon ou d'une autre, de prouver qu'il l'aime vraiment. Elle approuva de la tête et lui rendit son sourire. Elle approuva de la tête, lui rendit son sourire et disparut insensiblement. Encore du violet, dira-t-on, Murasaki. Il est vrai que Sakaku en fait la couleur des grands sentiments. Nous n'y revenons donc pas. Ce qui est intéressant, c'est que le romancier, ouais, je vous donne l'illustration ici, n'est-ce pas ? C'est que le romancier met ici en œuvre un ikkyo, ou soit un spectre émanant d'une personne vivante. La plupart du temps, ce n'est pas une apparition rassurante. Les ikkyo qu'on appelle aussi ikisudama dans le Genji Monogatari, n'est-ce pas ? Vous souvenez de l'esprit vivant, donc de la dame de la 6e avenue, Rokujo no Miyasu Dokoro, et des misères effroyables qu'elle causa à l'entourage féminin du prince. À l'époque d'Edo, les croyances concernant ces esprits sont très vivaces et ils apparaissent dans les recueils fantastiques de l'époque. Mais ici, nous voyons que c'est une apparition apaisée et, semble-t-il, de bon augure. Par exemple, ce qui est caractéristique des ikkyo, c'est que ce sont souvent des esprits soit qui veulent se venger, alors par excellence c'est la femme jalouse, n'est-ce pas, dont l'esprit quitte le corps quand elle est endormie, donc à son corps défendant, à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, n'est-ce pas, mais et qui va persécuter son amant ou plus souvent sa rivale, parfois de façon très très cruelle, mais c'est aussi ça peut être aussi l'esprit qui s'évade du corps pour subir des punitions de crimes cachés. Il y a une histoire très amusante, intéressante, représentative à ce sujet, et surtout peut-être aussi des auteurs. C'est dans un recueil de contes fantastiques de l'époque d'Edo, justement. Il y a un voyageur, je crois que c'est un moine d'ailleurs, qui va vers Kyoto et qui doit passer la nuit en chemin, n'est-ce pas, dans un temple abandonné. Et il se met dans un coin du temple, et brusquement, arrivé au milieu de la nuit, à minuit, au Japon comme partout ailleurs, n'est-ce pas, il voit de la lumière d'une pièce voisine, il entend des cris désespérés, et il en trouve le fusuma, n'est-ce pas, qu'on appelait shoji à l'époque, et il voit qu'une jeune fille qui est torturée atrocement par des démons. Bon, il n'y a rien à faire, lui-même est épouvanté, il se cache, il attend la fin de la nuit, et va vers... je crois qu'il entend, enfin, je ne me souviens... Il comprend où la jeune fille habite au lieu de sa destination. Si bien qu'il s'y rend le lendemain, c'est en réalité un magasin de marchands d'huile de sauce de soja, n'est-ce pas, de shoyu. Et il a appris de la confession de la jeune fille, voilà, qu'elle-même mettait comme partout, n'est-ce pas, elle mettait de l'eau dans le shoyu, donc pour elle gardait la différence pour revendre le shoyu pour elle-même pour se faire de l'argent de poche. Et comme c'était du shoyu destiné à un temple, la punition est immédiate, la punition surnaturelle, n'est-ce pas, est immédiate, ce sont les démons qui viennent se venger les moines qui ont été floués de leur shoyu. Et il apprend des parents de la jeune fille que toutes les nuits, elle hurle, elle a des cauchemars, elle passe des nuits. Et alors le moine fait avouer à la jeune fille son crime affreux, n'est-ce pas? Et elle promet de ne plus recommencer, et dès lors, les tortures cessent, tout se passe très bien. Donc vous voyez, ça c'est l'ikidio. Donc les ikidio, en général, ce ne sont pas des visions apaisées comme nous avons ici, n'est-ce pas? C'est l'image de la nishio qui apparaît sur les flots. Et donc au patron, au daijin, n'est-ce pas, l'amphitryon, comme à son amoureux est conduit, et elle ne dit rien, elle ne réagit pas. Ce sont donc les spectateurs qui la voient. On ne sait pas, et vous allez voir que c'est un peu tout cela est très très ambigu. Donc l'amphitryon, le daijin de l'Étahir, va s'exécuter en plaidant l'affaire auprès de celle-ci. Elle se rappelait dans cet ancien amant, aspirant, n'est-ce pas, plutôt que soupirant. Et bonne fille, elle se laisse faire, bien qu'en ajoutant une condition que l'on pourrait qualifier d'un peu tordue à notre époque. Certes, c'est quelqu'un dont je me souviens à présent. J'étais depuis 3 ans environ dans ce métier, et j'avais déjà cousu mes manches, n'est-ce pas? Donc c'est une des étapes dans la carrière de la... dans la carrière de l'Étahir, mais elle avait droit à des manches longues, mais elle les cousait, elle n'était pas encore ouverte. C'est beaucoup plus élégant quand elles sont ouvertes, comme vous le voyez vous-même quand vous voyez une personne en kimono. On ne pouvait dire de moi que j'ignorasse les élans du cœur de l'époque. Il m'avait entreprise de différentes façons, mais comme je fréquentais son compagnon, Otsure-sama, je ne pouvais guère lui céder, elle a des principes quand même, et il se dépensa en pure perte. Puisqu'il en est à présent réduit à cet état, son onnalisama nite au washikeruni, je devrais peut-être lui accorder une rencontre, mais je préférerais que ce fût en votre présence. Elle lui proposa ainsi, dit Saikaku, cet étrange jeu amoureux, konokawa taru ukiyo asobi. Ainsi, dit le comte, l'entrevue fut arrangée et la nishio le combla en tout, nishio wa banji no konashi, avec l'heureuse conclusion de reconnaissance, d'adoration, de joie, tout ensemble confondu, des pleurs virils furent par tous versés. Otokonaki nari. Il est clair, bien que Saikaku n'épilogue pas, qu'il ne s'agit pas d'un ikidio à proprement parler, c'est-à-dire vraiment l'esprit d'une personne qui est sortie de son corps pour se montrer. Certes, et la littérature de l'époque ne le montre à l'envi, la personne dont l'esprit erre par monts et par veaux alors qu'elle n'est pas morte ne s'en souvient généralement pas. Elle ne fait qu'en subir les conséquences physiques ou plutôt psychiques et attribue à des lambeaux de rêve les scènes horribles dont elle se souvient. Mais il semble bien que ce soit l'idée fixe, n'est-ce pas, il utilise le mot kokorodama, le kokorodama a toutes sortes de... on peut littéralement, n'est-ce pas, la perle, le joyau de mon cœur, qui est un mot un peu emphatique pour dire moi-même ce que je pense, ma vraie intention, etc. Mais ici, c'est peut-être apprendre au sens beaucoup plus réel, c'est-à-dire c'est comme une projection psychique, n'est-ce pas, qui suscite l'apparition, le maboroshi, puisqu'il dit lui-même qu'il l'a vu des centaines de fois, ce n'est pas la première fois. L'extraordinaire qui est dans cette scène, ses compagnons aperçoivent la belle dans son nimbe violet et entendent la musique venue de cette projection psychique. Et avec cette fioriture de l'auteur, en plus, y aurait-il un Yoshiwara sous les flots, comme du palais du roi dragon, auquel vous vous souvenez tous de l'épisode du Sutra du Lotus. Mais il y a aussi une allusion à cet épisode dans une autre partie du roman. Mais, comme de bien entendu, Saikaku ne nous dira pas ce qu'il pense vraiment. Et cette ambiguïté du surnaturel se manifeste encore plus nettement dans le chapitre 3 du même troisième livre, qui est intitulé « Le destin à venir deviné sur une seule parole » « Ichigon kiku mino yukue ». Sa structure est bien représentative de la narration fort lâche qu'affecte Saikaku, tout spécialement dans ce miroir des galanteries. Mais tout aussi caractéristique est le fait que les deux bouts de l'histoire se rejoignent, alors que la partie centrale est composée de très brèves scénettes qui pourraient être sorties tout droit du Dière de Potainville remis par la Renarde de tout à l'heure. Nous nous concentrerons donc sur la partie cohérente de cet épisode qui relève à coup sûr, enfin, encore une fois, du surnaturel, enfin, d'un certain surnaturel, mais dans un rapport très subtil. Un surnaturel qui ne serait pas magique. Les deux protagonistes sont d'abord présentés. Un expert aveugle, Zato, beaucoup de gens connaissent même en Occident maintenant le feuilleton Zato Ichi, n'est-ce pas, qui était un héros incarné par l'acteur Katsu Shintaro, qui est mort il y a déjà plusieurs années de ça, et qui c'est Zato, donc c'est une personne aveugle dont la cécité même lui permet de s'engager dans des arts qui ne sont pas ouverts à tout le monde, en particulier tout ce qui relève du son, n'est-ce pas, comme on va voir ici, ce sont des gens qui peuvent être qui devinent beaucoup de choses par les différents sons. Ce sont des masseurs aussi, des masseurs professionnels, qui ont une formation de rebouteux aussi, presque de médecins. Ils ont souvent le statut de moines aussi, mais des moines un peu sur le marginaux, et bien évidemment des musiciens. Les biwa hoshi, n'est-ce pas, les musiciens qui jouent du biwa, du luth, en récitant le Heike Monogatari, etc. Donc tous ces gens-là relèvent de la catégorie des zato. Littéralement, zato veut dire chef de guilde, quelque chose comme cela. On pourrait dire chef en français, n'est-ce pas, comme lorsqu'on interpelle les gens en les appelant chef. Mais en réalité, ça peut être une fonction assez élevée. Sauf qu'ici, ce sont des gens presque marginaux. Alors, donc, vous avez un expert aveugle du nom de Yomoichi, originaire de Ise, évidemment, Ise, le grand sanctuaire Shinto d'Ise, où les pèlerins affluent par milliers, n'est-ce pas, par Ise, où souffle le vent des dieux, Kamikaze Fuku. Ise, n'est-ce pas, le kamikaze, c'est en réalité un makura kotoba, c'est-à-dire une épithète poétique s'applique au sanctuaire d'Ise, et donc en s'appliquant au sanctuaire d'Ise, il s'applique au cœur même de la religion japonaise Shinto, n'est-ce pas. Alors donc, cet expert était capable, assurait-on, de tout prédire par la prédiction des cinq sens. Goin, n'est-ce pas, c'est-à-dire les cinq notes fondamentales de la musique chinoise et japonaise, qui est attestée depuis toujours en Chine, et on l'appelle aussi Choshigiki, n'est-ce pas, c'est-à-dire il analyse les intonations des gens. Un jour qu'il changeait de résidence, parce qu'évidemment ce sont des métiers itinérants, alors que le printemps venait sur Naniwa, donc la région d'Osaka, et qu'il s'était provisoirement établi à l'abri des pruniers, il se trouva pour compagnon le révérend Hikoroku, un bedeau du sanctuaire d'Ise, qui faisait la tournée des donateurs. Le bedeau, ce que je mets ici, c'est Oshi, n'est-ce pas, littéralement, l'auguste maître, c'est aussi dépourvu de sens que Zato, mais c'était des officiants mineurs, donc rattachés au sanctuaire d'Ise, et qui étaient chargés des relations avec les donateurs, les danna de tout le pays, n'est-ce pas, puisque Ise voyait affluer de partout des donations, des gratifications, de l'argent pour assurer des cérémonies, etc., et pour reconstruire le sanctuaire, comme vous le savez. Donc c'est aussi était toujours par Mons et par Vaux aussi. Alors, les deux compères de fortune font route ensemble. ce qui donne l'occasion à Yomoichi, donc aux Zato, de recommander à son compagnon, voyant, de prendre garde à un nid de guêpes dont il risquait de s'approcher, donc preuve de sa clairvoyance, il entend les guêpes de très loin. Ils finissent par faire la rencontre d'un groupe de pèlerins. Encore, dira-t-on, mais parce qu'il y a la dernière fois aussi, nous avions des pèlerins, n'est-ce pas, qui allaient à Yoshinoyama, mais ils allaient en réalité au Kompusen, J pour le centre du Shugendo, donc des pèlerins de montagne. Mais dans les sociétés anciennes, comme dans les contes de Canterbury, n'est-ce pas, le pèlerinage est l'occasion la plus courante de rencontres entre groupes sociaux divers. Alors, je vous cite là. Ils montèrent à grand-peine la route et étaient en train de descendre la pente des crabes, une pente abrupte de la route du Tokaido, c'est Kanizaka, n'est-ce pas, lorsqu'une averse capricieuse se mit à tomber dans la lumière du couchant, semant la confusion parmi un groupe de pèlerins qui se rendaient au sanctuaire. Ceux-ci se réfugièrent sous l'auvent d'un marchand de macarons. Bon, je traduis macarons pour le mot japonais maruame, c'est beaucoup moins épais, hein, ce sont des petites galettes, n'est-ce pas, des galettes de Pont-Aven. Toujours l'amour du détail qui rend si vraisemblables les rencontres décrites par Saikaku. Je vous donne le... C'est alors que survint un cheval batté en trois joyaux, c'est-à-dire Sambokojin. C'est un cheval de parce qu'il y avait quand même quelques chevaux à l'époque parmi les voyageurs, bien que ce soit un animal donc de très riche compagnie, n'est-ce pas, et batté en trois joyaux, c'est-à-dire que vous pouviez mettre trois. Il y avait une selle principale, une selle aménagée en siège, n'est-ce pas, et puis vous aviez deux sièges latéraux, un peu comme des sidecars, n'est-ce pas, et donc vous pouviez mettre trois personnes en général, trois personnes de haut rang, menées par un palefrenier qui criait « Attention, vous allez cogner, dégagez !» Son élocution fit bouger la troupe de ce qui semblait bien être des pèlerins clandestins. Tous vêtus d'une sobre veste en crêpe de bongo, leurs chapeaux de paille de carex ne portaient nulle indication de province ou de village. Ces pèlerinages clandestins, ce qu'on appelle les pèlerinages clandestins, les nukemairi, n'est-ce pas, désignent ici les voyages de personnes, généralement des femmes, des épouses, des filles, n'est-ce pas, qui se rendent à Issé sans la permission du chef de famille. Il y avait aussi des pèlerinages plus vastes et plus graves du point de vue politique, des villages entiers qui partaient sans la permission du seigneur, mais ici ce n'est pas les Kakune Maeli, n'est-ce pas, mais ici ce n'est pas le cas, ou Kange Maeli. Mais voici que nous voyons la protagoniste de ce chapitre, bien qu'elle ne fasse que deux fugitives apparitions. Il y avait parmi les neuf marcheurs une jeune fille dont l'allure montrait qu'elle ne connaissait encore rien des choses de la vie. Je vous le donne en japonais, vous comprendrez mieux. Mada sonna koto wa shiranu, shiritsuki naru musume. Les cheveux frisés, le teint sombre, elle était fort touchante. Elle s'était abritée sous un arbre à cause de l'averse, quand tout à coup elle partit en disant « À quoi sert d'attendre sous ce pain qui ne sert à rien ?» De toute façon, ma manche est déjà trempée. Cette phrase d'enfant gâté fait dresser l'oreille au maître aveugle. Entendant ces mots, Yomoichi, le Zato, n'est-ce pas, déclara « La jeune fille qui vient de parler finira à coup sûr fille de joie. » C'est pas ce nom, Yukuewa, je ne voulais pas dire ici. Yukuewa kanarazu yujo nari, n'est-ce pas. Non, il dit Yukusuewa kanarazu yujo nari, c'est-à-dire le futur, l'avenir, je reviendrai là-dessus dans un instant. Le ton est si péremptoire que le narrateur, sans doute le narrateur, à moins que ce soit le bedo dans son fort intérieur, mais c'est certainement Saikaku, se sent obligé de défendre une certaine idée des rapports entre caractère et influence de milieu. Mais ce n'est pas une intervention gratuite pour le plaisir du bavardage. Elle ne fait que mettre en relief le caractère inéluctable de ce qui suivra. Ici, il y a donc une digression tout à fait intéressante. Mais qui peut connaître ces choses? Saikaku joue l'avocat du diable, n'est-ce pas? Sorewa shirenu koto nari. Mais qui peut connaître ces choses? Ici-bas, les coupeurs de bourse ne sont pas destinés à cette carrière dès le ventre maternel. Il ajoute quelques exemples. Il faut cultiver 100 chrysanthèmes pour que s'épanouisse une fleur singulière. Quel villageois n'apprécierait de se trouver à la place du saint homme de Hirano? Le saint homme de Chinano, c'est un religieux du XIVe siècle, réformateur d'un mouvement abidiste qui s'appelle le Yuzu Nembutsu. Enfin, ça n'a pas... Mais il était issu d'une famille de paysans humbles, donc tout de paysans de milieu très pauvre en tout cas. Et donc n'importe quel paysan pourrait devenir saint homme de Chinano, n'est-ce pas, à ce compte-là. Sans ses riches atours, Shozoku, un homme, Shozoku, n'est-ce pas, Kugemo Shozoku nashi ni wa koyaku uri no kao no shiroi mono nari. Sans ses riches atours, un noble, un Kugesan, n'est-ce pas, un noble de cour, n'est plus qu'un colporteur d'ongan au visage un peu pâle. Ce qui caractérise la noblesse, c'est la pâleur du visage, n'est-ce pas? Et donc, ça peut être quelqu'un qui se met, ces vendeurs de pommades qui se mettent leurs propres médicaments. Changer la fonction et l'homme changera, quel qu'il soit. Ce serait donc le milieu qui mène l'homme vers sa destinée. Et il semble absurde, même pour un zato, de prédire de façon aussi péremptoire un avenir aussi peu engageant pour une toute jeune fille. L'esprit se rebelle, bien sûr. Et après cette objection qui semble insérée là pour le principe seulement, le narrateur délaisse ses personnages pour se lancer dans la description minutieuse d'une suite d'événements d'une pittoresque mesquinerie se déroulant dans le milieu qui lui est cher. Et c'est tout à la fin du chapitre qu'il reprend le fil de sa narration. Nous arrivons, nous sautons 3-4 pages. Un jour, alors que 4 ou 5 ans avaient passé depuis son voyage avec Yomoichi, Shikoroku, donc le bedeau d'Issé, le Oshi de Issé, se rendit à Osaka pour y distribuer talismans et calendriers. Donc, chaque grand lieu de culte donne ses almanachs pour l'année, n'est-ce pas, et les talismans qui correspondent à l'année, les ofuda aussi. Ces talismans disparaissent d'année en année. Profitant d'une pause au crépuscule, il s'en alla flâner aux quatre quartiers. Ce n'est pas le magasin ici, c'est ainsi qu'on appelle aussi le quartier des plaisirs d'Osaka. Tandis qu'il s'en retournait, rue des Chigo, son regard fut attiré par une femme de belle mine, tenant une boutique proche de la maison Yoshino. Donc une mise, n'est-ce pas? Vous avez la maison Yoshino, c'est une grande maison de rendez-vous, et qui a au rez-de-chaussée toute une, comme un shotengai dans le Japon moderne, n'est-ce pas, toute une série de petites boutiques où on vend la plupart du temps de la nourriture, n'est-ce pas, toutes sortes de nourriture, elles sont louées à la maison. Alors, coiffée en arrière, le profil expiègle. En s'approchant, il vit qu'elle était plongée dans la lecture de la grande étude, en texte non ponctué. Alors là, c'est très amusant, n'est-ce pas? La grande étude, le Daigaku, est l'un des quatre grands classiques confucéens. C'est écrit en chinois classique, et non seulement c'est écrit en chinois classique, mais là, elle a un texte qui ne donne pas les kairiten, n'est-ce pas, les signes d'inversion qui permettent à quelqu'un qui lit en chinois classique de mieux transformer la phrase en japonais. Donc c'est une aide précieuse, mais cette jeune fille, elle doit avoir 15-16 ans, puisqu'elle avait 11 ans à l'époque, vous le verrez. Donc elle est en train de lire un texte confucien en classique chinois, et en plus dans un texte vraiment pour érudits. Bon, vous me direz qu'il a de bons yeux pour voir ça, mais nous sommes dans un roman. Alors, elle le cachait, ce texte, dès que quelqu'un arrivait. En plus, elle ne veut pas paraître. Ce spectacle, où la grâce se mêlait au sérieux d'une digne fille de Confucius, Kōshi no Musume Mekite, le toucha au fond du cœur. Le contraste est grand entre le statut de la jeune femme qui tient un étal, n'est-ce pas, certainement pas le sien, près de la grande maison de rendez-vous de Yoshino de Shinmachi, c'est-à-dire que dans la hiérarchie prostibulaire, elle se situe tout au bas de l'échelle, parce qu'elle est vénale, elle aussi, bien sûr, comme vous allez le voir. On peut l'acheter, n'est-ce pas? Et on le voit vite aussi à la façon dont le bedeau va l'aborder. Et le fait, donc le contraste entre ce statut très, très mineur et le fait qu'elle lise un texte confucien, certes fort connu, mais imprimé sans signe d'aversion qui facilite la lecture, ce qui indique un niveau de culture singulier et une origine sociale, bien sûr, au-dessus de sa condition actuelle, encore une déclassée, comme nous avons vu tout à l'heure. Et entre parenthèses, cela montre, on pourrait faire une longue digression là-dessus, mais cela montre que les jeunes filles de bonne famille, que ce soit à l'époque de Heian comme à l'époque de Edo où nous sommes, connaissaient le kambun, qu'on dit toujours réservé aux hommes et jamais aux filles, aux femmes. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Donc, à cela s'ajoute aussi la délicieuse discrétion de son érudition. Il n'est pas question d'en faire étalage. Elle se cache lorsque quelqu'un, un client arrive pour qu'il ne la voie pas en train de lire la grande étude de Confucius et qu'il pense qu'elle lise un roman à l'eau de rose, comme il y en avait beaucoup à l'époque d'Edo. Et cela nous renvoie encore une fois à l'époque de Heian. N'oubliez pas qu'à l'époque, lorsque Murasaki Shikibu va faire des cours en cachette sur la littérature chinoise classique du Monzen à l'impératrice, elle ne veut pas que ça se sache, non pas parce que c'est une femme, mais parce que ce serait horriblement pédant. C'est tout à fait différent de ce que l'on pense habituellement. Alors, il n'y a sans doute qu'en Extrême-Orient, dans le monde de la sinoglossie, qu'un tel spectacle chavire les cœurs. Et le bedeau s'approche, ayant recours à une ouverture adaptée à la personne cultivée qu'il a discernée. Il l'accosta avec une maxime, « Garde-toi en tout de mépriser autrui », qui est d'un livre de roman populaire, le Geigaku, n'est-ce pas, l'étude inférieure, mais qui est quand même donc... aussi de la littérature sapientielle chinoise. Donc, il l'accosta avec cette maxime, n'est-ce pas ? Sojite, je ne sais pas si je voulais... Ah non. Sojite shito anadoru koto nakare, en japonais, en sino-japonais, et l'invita amoureusement à une discrète maison de rendez-vous pour une simple rencontre de passage. Il s'inquiétait singulièrement de voir la nuit s'enfuir. Il ne toucha guère au vin, et ne fit pas préparer le lit, donc il ne consomme pas, n'est-ce pas, plongé dans des sentiments d'une douceur qu'on ne saurait décrire. Comme elle avait un léger accent, il lui demanda si elle venait de l'ouest, ça se passait. En effet, lui raconta-t-elle, je viens d'un village proche de Fukuyama, en Bingo, pas le Fukuyama que nous connaissons, celui près de Hiroshima. Mais le récit prend un tour inattendu, certes, sauf pour le lecteur, bien sûr. Et la jeune fille raconte l'histoire de sa vie, encore une fois. « Certes, on ne peut jamais prévoir ce qu'il adviendra dans la vie. Et par les dieux, jamais je n'eusse pensé me retrouver un jour dans cette condition qui est la mienne. Au printemps de mes 11 ans, invité par des amis, je me rendis en pèlerinage à Issé. Tandis que je m'abritais de la pluie et me sentais toute seulette, un moine aveugle de je ne sais quelle province déclara « Cette jeune personne deviendra fille de joie. » Que pouvais-je dire ? Irrité que j'étais à l'entendre se prononcer sur ce que nul ne saurait voir. Après tout, je n'étais qu'une voyageuse inconnue parmi d'autres, et ma famille, pensais-je alors, donc vous voyez, elle est de bonne famille, avait dans sa province plus de 30 serviteurs, hommes et femmes, à ses ordres. C'étaient tous des gens prospères. Ainsi donc, la prédiction s'est réalisée. Soulignons d'ailleurs qu'il n'est pas question d'un don de divination ou de pouvoir magique au sens où l'entendons, mais de l'application stricte d'une connaissance technique que l'on appelle divination, le uranai, n'est-ce pas, qui n'est pas assortie de pratiques magiques. Vous avez des pratiques magiques religieuses, magico-religieuses, mais cette divination est une technique appliquée. On ne fait pas appel à des pouvoirs extraordinaires, sauf que chacun a des pouvoirs particulièrement aiguisés, n'est-ce pas, qui lui permettent de mener à bien. Donc le Zato a reconnu dans les infections de la voix de la jouvencelle tous les éléments qui devaient la mener à cette condition. Mais voici l'heureux dénouement, quelque peu inattendu cette fois. L'autre battit des mains. C'est moi qui l'accompagnais en ce temps-là. Il n'avait pas son pareil pour prédire sur les 5 sons. Mais je ne vous laisserai pas déchoir. Il obtint du tenancier qu'il la laisse quitte de son engagement, contre argent bien sûr, expliqua toute l'affaire à sa femme restée au pays. Il redescendit avec la jeune fille, qu'il installa à l'écart des curieux à Yoda, près de Issé. Donc il redescend d'Osaka, mais c'est-à-dire dans la province, n'est-ce pas ? Et derrière la porte de cryptomère, des cryptomères d'Issé, elle apprenait à lire aux jouvencelles. Elle oublia tout des choses de la volupté des sentiments, jusqu'au goût même des différents poissons, et elle n'aura rien perdu au change. Ainsi, de fille de joie de bas étage à l'institutrice rurale, le destin prédit par le bon aveugle s'est infléchi dans une direction non entrevue et pour le bonheur de tous. L'on peut voir encore que pour Saikaku, la seule issue heureuse envisageable pour les captifs du Kudoha, c'est d'en sortir. Et s'il le pense aussi fermement, nous pouvons faire confiance à ses dons d'observation pour en conclure que c'est ce qu'il avait compris de son expérience du milieu. Et soulignons aussi ce trait encore moins attendu et qui nous ravit pour des raisons toutes personnelles, le déclencheur inespéré de cette libération est un texte en chinois classique, lu en version non ponctuée, ce qui est un message d'espoir pour tous les étudiants de sino-japonais que j'aurai ce soir au séminaire. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.